Chapitre 20. Prêtre et bourreau, la charrette, l'échafaud, la visite domiciliaire. En sortant du tribunal, la reine avait été ramenée à la conciergerie. Arrivée dans sa chambre, elle avait pris des ciseaux, avait coupé ses longs et beaux cheveux devenus plus beaux de l'absence de la poudre, abolie depuis un an. Elle les avait enfermés dans un papier, puis elle avait écrit sur le papier « à partager entre mon fils et ma fille ». Alors elle s'était assise, ou plutôt elle était tombée sur une chaise et brisée de fatigue. L'interrogatoire avait duré 18 heures, elle s'était endormie. À 7 heures, le bruit du paravent que l'on dérangeait la réveilla en sursaut. Elle se retourna et vit un homme qui lui était complètement inconnu. « Que me veut-on » demanda-t-elle. L'homme s'approcha d'elle et la saluant aussi poliment que si elle n'eût pas été reine. « Je m'appelle Samson, » dit-il. La reine frissonna légèrement et se leva. Ce nom seul en disait plus qu'un long discours. « Vous venez de bien bonne heure, monsieur, » dit-elle. « Ne pourriez-vous pas retarder un peu ?»« Non, madame, » répliqua Samson, « j'ai ordre de venir. » Ces paroles dites, il fit encore un pas vers la reine. Tout dans cet homme et dans ce moment était expressif et terrible. « Je comprends, » dit la prisonnière, « vous voulez me couper les cheveux ?»« C'est nécessaire, madame, » répondit l'exécuteur. « Je le savais, monsieur, » dit la reine, « et j'ai voulu vous épargner cette peine. Mes cheveux sont là, sur cette table. » Samson suivit la direction de la main de la reine. « Seulement, » continua-t-elle, « je voudrais qu'ils fussent remis ce soir à mes enfants. »« Madame, » dit Samson, « ce soin ne me regarde pas. » »« Cependant, j'avais cru... » « Je n'ai à moi, » reprit l'exécuteur, « que la dépouille des personnes, leurs habits, leurs bijoux, et encore lorsqu'elles me les donnent formellement. Autrement, tout cela va à la salpêtrière et appartient aux pauvres des hôpitaux. Un arrêté du comité de salut public a réglé les choses ainsi. « Mais enfin, monsieur, » demanda en insistant Marie-Antoinette, « puis-je compter que mes cheveux seront remis à mes enfants ?» Samson resta muet. « Je me charge de l'essayer, » dit Gilbert. La prisonnière jeta au gendarme un regard d'ineffable reconnaissance. « Maintenant, » dit Samson, « je venais pour vous couper les cheveux, mais puisque cette besogne est faite, je puis, si vous le désirez, vous laisser un instant seul. »« Je vous en prie, monsieur, » dit la reine, « car j'ai besoin de me recueillir et de prier. » Samson s'inclina et sortit. Alors la reine se trouva seule, car Gilbert n'avait fait que passer la tête pour prononcer les paroles que nous avons dites. Tandis que la condamnée s'agenouillait sur une chaise plus basse que les autres et qui lui servait de prie-Dieu, une scène non moins terrible que celle que nous venons de raconter se passait dans le presbytère de la petite église Saint-Landry, dans la cité. Le curé de cette paroisse venait de se lever. Sa vieille gouvernante dressait son modeste déjeuner quand tout à coup on heurta violemment à la porte du presbytère. Même chez un prêtre de nos jours, une visite imprévue annonce toujours un événement. Il s'agit d'un baptême, d'un mariage in extremis ou d'une confession suprême. Mais à cette époque, la visite d'un étranger pouvait annoncer quelque chose de plus grave encore. À cette époque, en effet, le prêtre n'était plus le mandataire de Dieu et il devait rendre ses comptes aux hommes. Cependant, l'abbé Girard était du nombre de ceux qui devaient le moins craindre, car il avait prêté serment à la Constitution. En lui, la conscience et la probité avaient parlé plus haut que l'amour-propre et l'esprit religieux. Sans doute, l'abbé Girard admettait la possibilité d'un progrès dans le gouvernement et regrettait tant d'abus commis au nom du pouvoir divin. Il avait, tout en gardant son Dieu, accepté la fraternité du régime républicain. « Allez voir, dame Jacinthe, » dit-il, « allez voir qui vient heurter à notre porte de si bon matin. Si par hasard ce n'est point un service pressé qu'on vient me demander, dites que j'ai été mandé ce matin à la conciergerie et que je suis forcé de m'y rendre dans un instant. » Dame Jacinthe s'appelait autrefois dame Madeleine, mais elle avait accepté un nom de fleur en échange de son nom, comme l'abbé Girard avait accepté le titre de citoyen en place de celui de curé. Sur l'invitation de son maître, dame Jacinthe se hâta de descendre par les degrés du petit jardin sur lequel s'ouvrait la porte d'entrée. Elle tira les verrous, et un jeune homme fort pâle, fort agité, mais d'une douce et honnête physionomie, se présenta. Monsieur l'abbé Girard, dit-il. Jacinthe examina les habits en désordre, la barbe longue et le tremblement nerveux du nouveau venu. Tout cela lui sembla de mauvais augure. Citoyen, dit-elle, il n'y a point ici de monsieur ni d'abbé. Pardon, madame, reprit le jeune homme, je veux dire le desservant de Saint-Landry. Jacinthe, malgré son patriotisme, fut frappée par ce mot madame, qu'on n'eût point adressé à une impératrice. Cependant, elle répondit. On ne peut voir le citoyen, il dit son bréviaire. En ce cas, j'attendrai, répliqua le jeune homme. Mais, reprit dame Jacinthe, à qui cette persistance redonnait les mauvaises idées qu'elle avait ressenties tout d'abord, vous attendrez inutilement, citoyen, car il est appelé à la conciergerie et va partir à l'instant même. Le jeune homme pâlit affreusement, ou plutôt, de pâle qu'il était, devint livide. C'est donc vrai, murmura-t-il. Puis, tout haut, voilà justement, madame, dit-il, le sujet qui m'amène près du citoyen Girard. Et tout en parlant, il était entré, avait doucement, il est vrai, mais avec fermeté, poussé les verrous de la porte, et malgré les instances et même les menaces de dame Jacinthe, il était entré dans la maison et avait pénétré jusqu'à la chambre de l'abbé. Celui-ci, en l'apercevant, poussa une exclamation de surprise. Pardon, monsieur le curé, dit aussitôt le jeune homme, j'ai à vous entretenir d'une chose très grave. Permettez que nous soyons seuls. Le vieux prêtre savait par expérience comment s'expriment les grandes douleurs. Il lut une passion tout entière sur la figure bouleversée du jeune homme, une émotion suprême dans sa voix fiévreuse. Laissez-nous, dame Jacinthe, dit-il. Le jeune homme suivit des yeux avec impatience la gouvernante, qui, habituée à participer au secret de son maître, hésitait à se retirer. Puis, lorsque, enfin, elle eut refermé la porte, Monsieur le curé, dit l'inconnu, vous allez me demander tout d'abord qui je suis. Je vais vous le dire. Je suis un homme proscrit. Je suis un homme condamné à mort qui ne vit qu'à force d'audace. Je suis le chevalier de Maison Rouge. L'abbé fit un soubresaut d'effroi sur son grand fauteuil. Oh, ne craignez rien, reprit le chevalier. Nul ne m'a vu entrer ici, et ceux même qui m'auraient vu ne me reconnaîtraient pas. J'ai beaucoup changé depuis 2 mois. Mais enfin, que voulez-vous, citoyen? Demanda le curé. Vous allez ce matin à la conciergerie, n'est-ce pas? Oui, j'y suis mandé par le concierge. Savez-vous pourquoi? Pour quelques malades, pour quelques moribonds, pour quelques condamnés, peut-être. Vous l'avez dit, oui, une personne condamnée vous attend. Le vieux prêtre regarda le chevalier avec étonnement. Vous savez quelle est cette personne? Reprit Maison Rouge. Non, je ne sais. Eh bien, cette personne, c'est la reine. L'abbé poussa un cri de douleur. La reine, oh mon Dieu! Oui, monsieur, la reine. Je me suis informé pour savoir quel était le prêtre qu'on devait lui donner. J'ai appris que c'était vous et j'accours. Que voulez-vous de moi? Demanda le prêtre, effrayé de l'accent fébrile du chevalier. Je ne veux pas, monsieur. Je viens vous implorer, vous prier, vous supplier. De quoi donc? De me faire entrer avec vous près de Sa Majesté. Oh, mais vous êtes fou! S'écria l'abbé. Vous me perdez! Vous vous perdez vous-même! Ne craignez rien. Mais la pauvre femme est condamnée, c'en est fait d'elle. Je le sais, ce n'est pas pour tenter de la sauver que je veux la voir, c'est. Mais écoutez-moi, mon père, vous ne m'écoutez pas. Oh, je ne vous écoute pas parce que vous me demandez une chose impossible. Je ne vous écoute pas parce que vous agissez comme un homme en démence, dit le vieillard. Je ne vous écoute pas parce que vous m'épouvantez. Mon père, rassurez-vous, dit le jeune homme en essayant de se calmer lui-même. Mon père, croyez-moi, j'ai toute ma raison. La reine est perdue, je le sais, mais que je puisse me prosterner à ses genoux une seconde seulement, et cela me sauvera la vie. Si je ne la vois pas, je me tue, et comme vous serez la cause de mon désespoir, vous aurez tué à la fois le corps et l'âme. Mon fils, dit le prêtre, vous me demandez le sacrifice de ma vie, songez-y. Tout vieux que je suis, mon existence est encore nécessaire à bien des malheureux. Tout vieux que je suis, aller moi-même au-devant de la mort, c'est commettre un suicide. Ah, ne me refusez pas, mon père, répliqua le chevalier. Écoutez, il vous faut un des servants, un acolyte. Prenez-moi, emmenez-moi avec vous. Le prêtre essaya de rappeler sa fermeté, qui commençait à fléchir. Non, dit-il, non, ce serait manquer à mes devoirs. J'ai juré la Constitution, je l'ai juré du fond du cœur, en mon âme et conscience. La femme condamnée est une reine coupable. J'accepterais de mourir si ma mort pouvait être utile à mon prochain, mais je ne veux pas manquer à mon devoir. Hé, s'écria le chevalier, quand je vous dis, quand je vous répète, quand je vous jure que je ne veux pas sauver la reine, tenez, sur cet évangile, tenez, sur ce crucifix, je jure que je ne vais pas à la conciergerie pour l'empêcher de mourir. Alors que voulez-vous donc? Demanda le vieillard, ému par cet accent de désespoir que l'on n'imite point. Écoutez, dit le chevalier, dont l'âme semblait venir chercher un passage sur ses lèvres, elle fut ma bienfaitrice. Elle a pour moi quelque attachement. Me voir à sa dernière heure sera, j'en suis sûr, une consolation pour elle. C'est tout ce que vous voulez? Demanda le prêtre, ébranlé par cet accent irrésistible. Absolument tout. Vous ne tramez aucun complot pour essayer de délivrer la condamnée? Aucun. Je suis chrétien, mon père, et s'il y a dans mon cœur une ombre de mensonge, si j'espère qu'elle vivra, si j'y travaille en quoi que ce soit, que Dieu me punisse de la damnation éternelle. Non, non, je ne puis rien vous promettre, dit le curé, à l'esprit de qui revenaient les dangers si grands et si nombreux d'une semblable imprudence. Écoutez, mon père, dit le chevalier avec l'accent d'une profonde douleur, je vous ai parlé en fils soumis. Je vous ai entretenu de sentiments chrétiens et charitables. Pas une amère parole, pas une menace n'est sortie de ma bouche. Et cependant, ma tête fermente, cependant, la fièvre brûle mon sang, cependant, le désespoir ronge mon cœur, cependant, je suis armé, voyez, j'ai un poignard. Et le jeune homme tira de sa poitrine une lame brillante et fine qui jeta un reflet livide sur sa main tremblante. Le curé s'éloigna vivement. Ne craignez rien, dit le chevalier avec un triste sourire. D'autres, vous sachant si fidèles observateurs de votre parole, eussent arraché un serment à votre frayeur. Non, je vous ai supplié, et je vous supplie encore, les mains jointes, le front sur le carreau, faites que je la voie un seul moment. Et tenez, voici pour votre garantie. Et il tira de sa poche un billet qu'il présenta à l'abbé Girard. Celui-ci le déplia et lut ces mots. Moi, René, chevalier de Maison-Rouge, déclare sur Dieu et sur mon honneur que j'ai, par menace de mort, contraint le digne curé de Saint-Landry à m'emmener à la conciergerie malgré ses refus et ses vives répugnances, en foi de quoi j'ai signé Maison-Rouge. C'est bien, dit le prêtre, mais jurez-moi encore que vous ne ferez pas d'imprudence. Ce n'est point assez que ma vie soit sauve, je réponds aussi de la vôtre. Oh, ne songeons point à cela, dit le chevalier. Vous consentez? Il le faut bien, puisque vous le voulez absolument, mais vous m'attendez en bas, et lorsqu'elle passera dans le greffe, alors vous la verrez. Le chevalier saisit la main du vieillard et la baisa avec autant de respect et d'ardeur qu'il eût baisé le crucifix. Oh, murmura le chevalier, elle mourra au moins comme une reine, et la main du bourreau ne la touchera point. Aussitôt après qu'il eut obtenu cette permission du curé de Saint-Landry, Maison-Rouge s'élança dans un cabinet entrouvert qu'il avait reconnu pour le cabinet de toilette de l'abbé. Là, en un tour de main, sa barbe et ses moustaches tombèrent sous le rasoir, et ce fut alors seulement que lui-même put voir sa pâleur. Elle était effrayante. Il rentra calme en apparence. Il semblait d'ailleurs avoir complètement oublié que, malgré la chute de sa barbe et de ses moustaches, il pouvait être reconnu à la conciergerie. Il suivit l'abbé, que, pendant sa retraite d'un instant, de fonctionnaires étaient venus chercher, et avec cette audace qui éloigne tout soupçon, avec ce gonflement de fièvre qui défigure, il entra par la grille donnant à cette époque dans la cour du palais. Il était, comme l'abbé Girard, vêtu d'un habit noir, les habits sacerdotaux étant abolis. Dans le greffe, ils trouvèrent plus de 50 personnes, soit employées à la prison, soit députées, soit commissaires, se préparant à voir passer la reine, soit en mandataire, soit en curieux. Son cœur battit si violemment quand il se trouva en face du guichet qu'il n'entendit plus les pourparlers de l'abbé avec les gendarmes et le concierge. Seulement, un homme qui tenait à la main des ciseaux et un morceau d'étoffe fraîchement coupé heurta Maison Rouge sur le seuil. Maison Rouge se retourna et reconnut l'exécuteur. « Que veux-tu, citoyen ?» demanda Samson. Le chevalier essaya de réprimer le frisson qui, malgré lui, courait dans ses veines. « Moi, dit-il, tu me vois bien, citoyen Samson, j'accompagne le curé de Saint-Landry. « Ah bien, répliqua l'exécuteur, et il se rangea de côté, donnant des ordres à son aide. Pendant ce temps, Maison Rouge pénétra dans l'intérieur du greffe, puis du greffe il passa dans le compartiment où se tenaient les deux gendarmes. Ces braves gens étaient consternés. Aussi digne et fière qu'elle avait été avec les autres, aussi bonne et douce la condamnée avait été avec eux. Ils semblaient plutôt ses serviteurs que ses gardiens. Mais d'où il était, le chevalier ne pouvait apercevoir la reine, le paravent était fermé. Le paravent s'était ouvert pour donner passage au curé, mais il s'était refermé derrière lui. Lorsque le chevalier entra, la conversation était déjà engagée. « Monsieur, disait la reine de sa voix stridente et fière, puisque vous m'avez fait serment à la République, au nom de qui on me met à mort, je ne saurais avoir confiance en vous. Nous n'adorons pas le même Dieu. « Madame, répondit Girard, fort ému de cette dédaigneuse profession de foi, une chrétienne qui va mourir doit mourir sans haine dans le cœur, et elle ne doit pas repousser son Dieu sous quelque forme qu'il se présente à elle. Maison Rouge fit un pas pour entrouvrir le paravent, espérant que lorsqu'elle l'apercevrait, que lorsqu'elle saurait la cause qui l'amenait, elle changerait d'avis à l'endroit du curé. Mais les deux gendarmes firent un mouvement. Mais, dit Maison Rouge, puisque je suis l'acolyte du curé. Puisqu'elle refuse le curé, répondit Duchesne, elle n'a pas besoin de son acolyte. Mais elle acceptera peut-être, dit le chevalier en haussant la voix, il est impossible qu'elle n'accepte pas. Mais Marie-Antoinette était trop entièrement au sentiment qui l'agitait pour entendre et reconnaître la voix du chevalier. Allez, monsieur, continua-t-elle, s'adressant toujours à Girard, allez, et laissez-moi. Puisque nous vivons à cette heure en France sous un régime de liberté, je réclame celle de mourir à ma fantaisie. Girard essaya de résister. Laissez-moi, monsieur, dit-elle, je vous dis de me laisser. Girard essaya d'ajouter un mot. Je le veux, dit la reine, avec un geste de Marie-Thérèse. Girard sortit. Maison Rouge essaya de plonger son regard dans l'intervalle du paravent, mais la prisonnière lui tournait le dos. L'aide de l'exécuteur croisa le curé. Il entrait, tenant des cordes à la main. Les deux gendarmes repoussèrent le chevalier jusqu'à la porte, avant que, ébloui, désespéré, étourdi, il eût pu articuler un cri ou faire un mouvement pour accomplir son dessein. Il se retrouva donc avec Girard dans le corridor du guichet. Du corridor, on les refoula jusqu'au greffe, où la nouvelle du refus de la reine s'était déjà répandue, et où la fierté autrichienne de Marie-Thérèse était pour quelques-uns le texte de grossières invectives et pour d'autres un sujet de secrète admiration. Allez, dit Richard à l'abbé, retournez chez vous, puisqu'elle vous chasse et qu'elle meure comme elle voudra. Tiens, dit la femme Richard, elle a raison, et je ferai comme elle. Et vous auriez tort, citoyenne, dit l'abbé. Tais-toi, femme, murmura le concierge en faisant de gros yeux, est-ce que cela te regarde? Allez, l'abbé, allez. Non, répéta Girard, non, je l'accompagnerai malgré elle. Un mot, ne fût-ce qu'un mot, si elle l'entend, lui rappellera ses devoirs. D'ailleurs, la commune m'a donné une mission, et je dois obéir à la commune. Soit, mais renvoie ton sacristain, alors, dit brutalement l'adjudant-major commandant la force armée. C'était un ancien acteur de la Comédie-Française nommé Gramont. Les yeux du chevalier lancèrent un double éclair et il plongea machinalement la main dans sa poitrine. Girard savait que sous son gilet il y avait un poignard. Il l'arrêta d'un regard suppliant. Épargnez ma vie, dit-il tout bas. Vous voyez bien que tout est perdu pour vous. Ne vous perdez pas avec elle. Je lui parlerai de vous en route, je vous le jure. Je lui dirai que vous avez risqué votre vie pour la voir une dernière fois. Ces mots calmèrent l'effervescence du jeune homme. D'ailleurs, la réaction ordinaire s'opérait, toute son organisation subissait un affaissement étrange. Cet homme, d'une volonté héroïque, d'une puissance merveilleuse, était arrivé au bout de sa force et de sa volonté. Il flottait, irrésolu, ou plutôt fatigué, vaincu, dans une espèce de somnolence qu'on eût prise pour l'avant-courrière de la mort. Oui, dit-il, ce devait être ainsi. La croix pour Jésus, l'échafaud pour elle. Les dieux et les rois boivent jusqu'à la lie le calice que leur présentent les hommes. Il résulta de cette pensée, toute résignée, toute inerte, que le jeune homme se laissa repousser, sans autre défense qu'une espèce de gémissement involontaire, jusqu'à la porte extérieure, et sans faire plus de résistance que n'en faisait Ophélia, dévouée à la mort lorsqu'elle se voyait emportée par les flots. Au pied des grilles et aux portes de la conciergerie se pressait une de ces foules effrayantes, comme on ne peut se les figurer sans les avoir vues au moins une fois. L'impatience dominait toutes les passions, et toutes les passions parlaient haut leur langage, qui, en se confondant, formait une rumeur immense et prolongée, comme si tout le bruit et toute la population de Paris s'étaient concentrés dans le quartier du palais de justice. Au-devant de cette foule campait une armée tout entière avec des canons destinés à protéger la fête et à la rendre sûre à ceux qui venaient en jouir. On eût en vain essayé de percer ce rempart profond, grossi peu à peu depuis que la condamnation était connue hors de Paris par les patriotes des faubourgs. Maison Rouge, repoussée hors de la conciergerie, se trouva naturellement au premier rang des soldats. Les soldats lui demandèrent qui il était. Il répondit qu'il était le vicaire de l'abbé Girard, mais que, assermenté comme son curé, il avait, comme son curé, été repoussé par la reine. Les soldats le repoussèrent à leur tour jusqu'au premier rang des spectateurs. Là, force lui fut de répéter ce qu'il avait dit aux soldats. Alors ce cri s'éleva. Il la quitte, il l'a vue. Qu'a-t-elle dit? Que fait-elle? Est-elle fière toujours? Est-elle abattue? Pleure-t-elle? Le chevalier répondit à toutes ces questions d'une voix à la fois faible, douce et affable, comme si cette voix était la dernière manifestation de la vie suspendue à ses lèvres. Lorsqu'il parla du petit dauphin et de Madame Royale, de cette reine sans trône, de cette épouse sans époux, de cette mère sans enfant, de cette femme enfin seule et abandonnée, sans un ami au milieu des bourreaux, plus d'un front çà et là se voila de tristesse, plus d'une larme apparut, furtive et brûlante, en des yeux naguère animés de haine. 11 heures sonnèrent à l'horloge du palais, toute rumeur cessa à l'instant même. 100 000 personnes comptaient l'heure qui sonnait et à laquelle répondaient les battements de leur cœur. Puis la vibration de la dernière heure éteinte dans l'espace, il se fit un grand bruit derrière les portes, en même temps qu'une charrette venant du côté du quai aux fleurs fendait la foule du peuple, puis les gardes, et venait se placer au bas des degrés. Bientôt la reine apparut au haut de l'immense perron. Toutes les passions se concentrèrent dans les yeux, les respirations demeurèrent haletantes et suspendues. Ses cheveux étaient coupés courts, la plupart avaient blanchi pendant sa captivité, et cette nuance argentée rendait plus délicate encore la pâleur nacrée qui faisait presque céleste en ce moment suprême la beauté de la fille de César. Elle était vêtue d'une robe blanche, et ses mains étaient liées derrière son dos. Lorsqu'elle se montra en haut des marches, ayant à sa droite l'abbé Girard qui l'accompagnait malgré elle, et à sa gauche l'exécuteur, tous deux vêtus de noir, ce fut dans cette foule un murmure que Dieu seul, qui lit au fond des cœurs, put comprendre et résumer dans une vérité. Un homme alors passa entre l'exécuteur et Marie-Antoinette. C'était Gramont. Il passait ainsi pour lui montrer l'ignoble charrette. La reine recula, malgré elle, d'un pas. « Montez, » dit Gramont. Tout le monde entendit ce mot, car l'émotion tenait tout murmure suspendu aux lèvres des spectateurs. Alors on vit le sang monter aux joues de la reine et gagner la racine de ses cheveux. Puis, presque aussitôt, son visage redevint d'une pâleur mortelle. Ses lèvres blêmissantes s'entr'ouvrirent. « Pourquoi une charrette à moi, » dit-elle, « quand le roi a été à l'échafaud dans sa voiture ?» L'abbé Gérard lui dit alors quelques mots tout bas. Sans doute, il combattait chez la condamnée ce dernier cri de l'orgueil royal. La reine se tut et chancela. Samson avança les deux bras pour la soutenir, mais elle se redressa avant même qu'il l'eût touchée. Elle descendit les escaliers, tandis que l'aide affermissait un marchepied de bois derrière la charrette. La reine y monta, l'abbé monta derrière elle. Samson les fit asseoir tous deux. Quand la charrette commença à s'ébranler, il se fit un grand mouvement dans le peuple. Mais en même temps, comme les soldats ignoraient dans quelle intention était accompli ce mouvement, ils réunirent tous leurs efforts pour repousser la foule. Il se fit en conséquence un grand espace vide entre la charrette et les premiers rangs. Dans cet espace retentit un hurlement lugubre. La reine tressaillit et se leva tout debout, regardant autour d'elle. Elle vit alors son chien, perdu depuis 2 mois, son chien qui n'avait pu pénétrer avec elle dans la conciergerie, qui, malgré les cris, les coups, les bourrades, s'élançait vers la charrette. Mais presque aussitôt, le pauvre Black, exténué, maigre, brisé, disparut sous les pieds des chevaux. La reine le suivit des yeux. Elle ne pouvait parler, car sa voix était couverte par le bruit. Elle ne pouvait le montrer du doigt, car ses mains étaient liées. D'ailleurs, eût-elle pu le montrer, eût-on pu l'entendre, elle l'eût sans doute demandé inutilement. Mais après l'avoir perdu un instant des yeux, elle le revit. Il était au bras d'un pâle jeune homme qui dominait la foule, debout sur un canon et qui, grandi par une exaltation indicible, la saluait en lui montrant le ciel. Marie-Antoinette aussi regarda le ciel et sourit doucement. Le chevalier de Maison-Rouge poussa un gémissement, comme si ce sourire lui avait fait une blessure au cœur, et comme la charrette tournait vers le pont au change, il retomba dans la foule et disparut. Sur la place de la Révolution, adossés à un réverbère, 2 hommes attendaient. Ce qu'ils faisaient avec la foule, dont une partie s'était portée à la place du palais, dont une autre partie s'était portée à la place de la Révolution, dont le reste s'était répandu, tumultueux et pressé, sur tout le chemin qui séparait ces 2 places, c'est que la reine arriva jusqu'à l'instrument du supplice, qui, usé par la pluie et le soleil, usé par la main du bourreau, usé, chose horrible, par le contact des victimes, dominait avec une fierté sinistre toutes ces têtes subjacentes comme une reine domine son peuple. Ces 2 hommes, aux bras entrelacés, aux lèvres pâles, aux sourcils froncés, par Lamba et par Saccade, c'étaient Lorrain et Maurice. Perdus parmi les spectateurs et cependant de manière à faire envie à tous, ils continuaient à voix basse une conversation qui n'était pas la moins intéressante de toutes ces conversations serpentant dans les groupes qui, pareil à une chaîne électrique, s'agitaient, mer vivante, depuis le pont au change jusqu'au pont de la Révolution. L'idée que nous avons exprimée à propos de l'échafaud dominant toutes les têtes les avait frappés tous deux. Vois, disait Maurice, comme le monstre hideux lève ses bras rouges. Ne dirait-on pas qu'il nous appelle et qu'il sourit par son guichet comme une bouche effroyable? Ah, ma foi, dit Lorrain, je ne suis pas, je l'avoue, de cette école de poésie qui voit tout en rouge. Je les vois en rose, moi, et au pied de cette hideuse machine, je chanterai et j'espérerai encore. Dum spiro spero. Tu espères quand on tue les femmes? Ah, Maurice, dit Lorrain, fils de la Révolution, ne renie pas ta mère. Ah, Maurice, demeure un bon et loyal patriote. Maurice, celle qui va mourir, ce n'est pas une femme comme toutes les autres femmes. Celle qui va mourir, c'est le mauvais génie de la France. Oh, ce n'est pas elle que je regrette, ce n'est pas elle que je pleure, s'écria Maurice. Oui, je comprends, c'est Geneviève. Ah, dit Maurice, vois-tu, il y a une pensée qui me rend fou. C'est que Geneviève est aux mains des pourvoyeurs de guillotine qu'on appelle Hébert et Fouquier-Tinville, aux mains des hommes qui ont envoyé ici la pauvre Héloïse et qui envoient la fière Marie-Antoinette. Eh bien, dit Lorrain, voilà justement ce qui fait que j'espère, moi. Quand la colère du peuple aura fait ce large repas de 2 tyrans, elle sera rassasiée, pour quelque temps du moins, comme le broie qui met 3 mois à digérer ce qu'il dévore. Alors elle n'engloutira plus personne, et comme disent les prophètes du faubourg, alors les plus petits morceaux lui feront peur. Lorrain, Lorrain, dit Maurice, moi je suis plus positif que toi, et je te le dis tout bas, prêt à te le répéter tout haut. Lorrain, je hais la reine nouvelle, celle qui me paraît destinée à succéder à l'autrichienne qu'elle va détruire. C'est une triste reine que celle dont la pourpre est faite d'un sang quotidien et qui a Samson pour premier ministre. Bah, nous lui échapperons. Je n'en crois rien, dit Maurice en secouant la tête. Tu vois que pour n'être pas arrêté chez nous, nous n'avons d'autre ressource que de demeurer dans la rue. Ah, nous pouvons quitter Paris, rien ne nous en empêche. Ne nous plaignons donc pas. Mon oncle nous attend à Saint-Omer. Argent, passeport, rien ne nous manque. Et ce n'est pas un gendarme qui nous arrêterait. Qu'en penses-tu? Nous restons parce que nous le voulons bien. Non, ce que tu dis là n'est pas juste, excellent ami, cœur dévoué que tu es. Tu restes parce que je veux rester. Et tu veux rester pour retrouver Geneviève, hein? Eh bien, quoi de plus simple, de plus juste, de plus naturel? Tu penses qu'elle est en prison, c'est plus que probable. Tu veux veiller sur elle, et pour cela, il ne faut pas quitter Paris. Maurice poussa un soupir. Il était évident que sa pensée divergeait. Te rappelles-tu la mort de Louis XVI? Dit-il. Je me vois encore pâle d'émotion et d'orgueil. J'étais un des chefs de cette foule dans les plis de laquelle je me cache aujourd'hui. J'étais plus grand au pied de cet échafaud que n'avait jamais été le roi qui montait dessus. Quel changement, Lorrain! Et lorsqu'on pense que 9 mois ont suffi pour amener cette terrible réaction. 9 mois d'amour, Maurice. Amour, tu perdis 3. Maurice soupira. Sa pensée vagabonde prenait une autre route et envisageait un autre horizon. Ce pauvre Maison Rouge, murmura-t-il, voilà un triste jour pour lui. Hélas, dit Lorrain, ce que je vois de plus triste dans la Révolution, Maurice, veux-tu que je te le dise? Oui. C'est que l'on a souvent pour ennemis des gens qu'on voudrait avoir pour amis, et pour amis des gens. J'ai peine à croire une chose, interrompit Maurice. Laquelle? C'est qu'il n'inventera pas quelque projet, fût-il insensé, pour sauver la reine. Un homme plus fort que 100 000? Je te dis, fût-il insensé. Moi, je sais que pour sauver Geneviève. Lorrain fronça le sourcil. Je te le redis, Maurice, reprit-il, tu t'égares. Non, même s'il fallait que tu sauvasses Geneviève, tu ne deviendrais pas mauvais citoyen. Mais assez là-dessus, Maurice, on nous écoute. Tiens, voici des têtes qui ondulent. Tiens, voici le valet du citoyen Samson qui se lève de dessus son panier et qui regarde au loin. L'Autrichienne arrive. En effet, comme pour accompagner une ondulation qu'avait remarquée Lorrain, un frémissement prolongé et croissant envahissait la foule. C'était comme une de ces rafales qui commencent par siffler et qui finissent par mugir. Maurice, élevant encore sa grande taille à l'aide des poteaux du réverbère, regarda vers la rue Saint-Honoré. Oui, dit-elle en frissonnant, la voilà. En effet, on commençait à voir apparaître une autre machine, presque aussi hideuse que la guillotine, c'était la charrette. À droite et à gauche reluisaient les armes de l'escorte, et devant elle, Gramont répondait avec les flamboiements de son sabre aux cris poussés par quelques fanatiques. Mais à mesure que la charrette s'avançait, ses cris s'éteignaient subitement sous le regard froid et sombre de la condamnée. Jamais physionomie n'imposa plus énergiquement le respect. Jamais Marie-Antoinette n'avait été plus grande et plus reine. Elle poussa l'orgueil de son courage jusqu'à inspirer aux assistants des idées de terreur. Indifférente aux exhortations de l'abbé Girard, qui l'avait accompagnée malgré elle, son front n'oscillait ni à droite ni à gauche. La pensée vivante au fond de son cerveau semblait immuable, comme son regard. Le mouvement saccadé de la charrette sur le pavé inégal faisait, par sa violence même, ressortir la rigidité de son maintien. On eût dit une de ces statues de marbre qui cheminent sur un chariot. Seulement, la statue royale avait l'œil lumineux et ses cheveux s'agitaient au vent. Un silence pareil à celui du désert s'abattit soudain sur les 300 000 spectateurs de cette scène que le ciel voyait pour la première fois à la clarté de son soleil. Bientôt, de l'endroit où se tenaient Maurice et Lorrain, on entendit crier l'essieu de la charrette et souffler les chevaux des gardes. La charrette s'arrêta au pied de l'échafaud. La reine, qui sans doute ne songeait pas à ce moment, se réveilla et comprit. Elle étendit son regard hautain sur la foule, et le même jeune homme pâle qu'elle avait vu debout sur un canon lui apparut de nouveau debout sur une borne. De cette borne, il lui envoya le même salut respectueux qu'il avait déjà adressé au moment où elle sortait de la conciergerie, puis aussitôt il sauta à bas de la borne. Plusieurs personnes le virent, et comme il était vêtu de noir, de là le bruit se répandit qu'un prêtre avait attendu Marie-Antoinette afin de lui envoyer l'absolution au moment où elle monterait sur l'échafaud. Au reste, personne n'inquiéta le chevalier. Il y a dans les moments suprêmes un suprême respect pour certaines choses. La reine descendit avec précaution les 3 degrés du marchepied. Elle était soutenue par Samson qui, jusqu'au dernier moment, tout en accomplissant la tâche à laquelle il semblait lui-même condamné, lui témoigna les plus grands égards. Pendant qu'elle marchait vers les degrés de l'échafaud, quelques chevaux se cabrèrent, quelques gardes à pied, quelques soldats semblèrent osciller et perdre l'équilibre, puis on vit comme une ombre se glisser sous l'échafaud, mais le calme se rétablit presque à l'instant même. Personne ne voulait quitter sa place dans ce moment solennel, personne ne voulait perdre le moindre détail du grand drame qui allait s'accomplir. Tous les yeux se portèrent vers la condamnée. La reine était déjà sur la plateforme de l'échafaud. Le prêtre lui parlait toujours. Un aide la poussait doucement par derrière. Un autre dénouait le fichu qui couvrait ses épaules. Marie-Antoinette sentit cette main infâme qui effleurait son cou. Elle fit un brusque mouvement et marcha sur le pied de Samson qui, sans qu'elle le vît, était occupé à l'attacher à la planche fatale. Samson retira son pied. « Excusez-moi, monsieur, dit la reine, je ne l'ai point fait exprès. » Ce furent les dernières paroles que prononça la fille de César, la reine de France, la veuve de Louis XVI. Le quart après-midi sonna à l'horloge des Tuileries, en même temps que lui, Marie-Antoinette, tombait dans l'éternité. Un cri terrible, un cri qui résumait toutes les patiences, joie, épouvante, deuil, espoir, triomphe, expiation, couvrit comme un ouragan un autre cri faible et lamentable qui, au même moment, retentissait sous l'échafaud. Les gendarmes l'entendirent pourtant, si faible qu'il fût. Ils firent quelques pas en avant, la foule, moins serrée, s'épandit comme un fleuve dont on élargit la digue, renversa la haie, dispersa les gardes et vint comme une marée battre les pieds de l'échafaud qui en fut ébranlé. Chacun voulait voir de près les restes de la royauté que l'on croyait à tout jamais détruite en France. Mais les gendarmes cherchaient autre chose, ils cherchaient cette ombre qui avait dépassé leur ligne et qui s'était glissée sous l'échafaud. Deux d'entre eux revinrent, amenant par le collet un jeune homme dont la main pressait sur son cœur un mouchoir teint de sang. Il était suivi par un petit chien espagnol qui hurlait lamentablement. « À mort l'aristocrate, à mort le ci-devant !» crièrent quelques hommes du peuple en désignant le jeune homme. « Il a trempé son mouchoir dans le sang de l'Autrichienne, à mort !»« Grand Dieu !» dit Maurice à Lorrain, « leur connais-tu, leur connais-tu »« À mort le royaliste !» répétaient les forcenés. « Ôtez-lui ce mouchoir dont il veut faire une relique, arrachez, arrachez !» Un sourire orgueilleux erra sur les lèvres du jeune homme. Il arracha sa chemise, découvrit sa poitrine et laissa tomber son mouchoir. « Monsieur, dit-il, ce sang n'est pas celui de la reine, mais bien le mien. Laissez-moi mourir tranquillement. » Et une blessure profonde et reluisante apparut béante sous sa mamelle gauche. La foule jeta un cri et recula. Alors le jeune homme s'affaissa lentement et tomba sur ses genoux en regardant l'échafaud comme un martyr regarde l'autel. « Maison rouge, murmura Lorrain à l'oreille de Maurice. « Adieu !» murmura le jeune homme en baissant la tête avec un divin sourire. « Adieu, ou plutôt, au revoir !» Et il expira au milieu des gardes stupéfaits. « Il y a encore cela à faire, Lorrain, dit Maurice, avant de devenir un mauvais citoyen. » Le petit chien tournait autour du cadavre, effaré et hurlant. « Tiens, c'est Black !» dit un homme qui tenait un gros bâton à la main. « Tiens, c'est Black, viens ici, mon petit vieux !» Le chien s'avança vers celui qui l'appelait, mais à peine fut-il à sa portée que l'homme leva son bâton et lui écrasa la tête en éclatant de rire. « Oh, le misérable !» s'écria Maurice. « Silence !» murmura Lorrain en l'arrêtant. « Silence, où nous sommes perdus, c'est Simon !» Lorrain et Maurice étaient revenus chez le premier d'entre eux. Maurice, pour ne pas compromettre son ami trop ouvertement, avait adopté l'habitude de sortir le matin et de ne rentrer que le soir. Mêlé aux événements, assistant au transfert des prisonniers à la conciergerie, il épiait chaque jour le passage de Geneviève, n'ayant pu savoir en quelle maison elle avait été renfermée. Car depuis sa visite à Fouquier-Tinville, Lorrain lui avait fait comprendre que la première démarche ostensible le perdrait, qu'alors il serait sacrifié sans avoir pu porter secours à Geneviève, et Maurice, qui se fût fait incarcérer sur le champ dans l'espoir d'être réuni à sa maîtresse, devint prudent par la crainte d'être à jamais séparé d'elle. Il allait donc chaque matin des Carmes à Port-Libre, des Madelonnettes à Saint-Lazare, de la Force au Luxembourg, et stationnait devant les prisons au sortir des charrettes qui menaient les accusés au tribunal révolutionnaire. Son coup d'œil jeté sur les victimes, il courait à une autre prison. Mais il s'aperçut bientôt que l'activité de 10 hommes ne suffirait pas à surveiller ainsi les 33 prisons que Paris possédait à cette époque, et il se contenta d'aller au tribunal même attendre la comparution de Geneviève. C'était déjà un commencement de désespoir. En effet, quelles ressources restaient à un condamné après l'arrêt? Quelquefois, le tribunal, qui commençait les séances à 10 heures, avait condamné 20 ou 30 personnes à 4 heures. Le premier condamné jouissait de 6 heures de vie, mais le dernier, frappé de sentence à 4 heures moins un quart, tombait à 4 heures et demie sous la hache. Se résigner à subir une pareille chance pour Geneviève, c'était donc se lasser de combattre le destin. Aussi, il eût été prévenu d'avance de l'incarcération de Geneviève, comme Maurice se fût joué de cette justice humaine, tant aveuglée à cette époque, comme il eût facilement et promptement arraché Geneviève de la prison. Jamais évasions ne furent plus commodes, on pourrait dire que jamais elles ne furent plus rares. Toute cette noblesse, une fois mise en prison, s'y installait comme dans un château et prenait ses aises pour mourir. Fuir, c'était se soustraire aux conséquences d'un duel. Les femmes elles-mêmes rougissaient d'une liberté acquise à ce prix. Mais Maurice ne se fut pas montré si scrupuleux. Tuer des chiens, corrompre un porte-clés, quoi de plus simple? Geneviève n'était pas un de ces noms tellement splendides qu'il attira l'attention du peuple. Elle ne se déshonorait pas en fuyant, et d'ailleurs, quand elle se fut déshonorée... Oh, comme il se représentait avec amertume ces jardins de Port-Libre, si faciles à escalader, ces chambres des Madelonnettes, si commodes à percer pour gagner la rue, et les murs si bas du Luxembourg, et les corridors sombres des Carmes, dans lesquels un homme résolu pouvait pénétrer si aisément en débouchant une fenêtre. Mais Geneviève était-elle dans une de ces prisons? Alors, dévoré par le doute et brisé par l'anxiété, Maurice accablait Dixmer d'imprécations, il le menaçait, il savourait sa haine pour cet homme dont la lâche vengeance se cachait sous un semblant de dévouement à la cause royale. « Je le trouverai aussi, » pensait Maurice, « car s'il veut sauver la malheureuse femme, il se montrera, s'il veut la perdre, il lui insultera. Je le retrouverai l'infâme et ce jour-là, malheur à lui. » Le matin du jour où se passent les faits que nous allons raconter, Maurice était sorti pour aller s'installer à sa place au tribunal révolutionnaire. Lorrain dormait. Il fut réveillé par un grand bruit que faisaient à la porte des voix de femmes et des crosses de fusils. Il jeta autour de lui un coup d'œil effaré de l'homme surpris qui voudrait se convaincre que rien de compromettant ne reste en vue. 4 sectionnaires, 2 gendarmes et un commissaire entrèrent chez lui au même instant. Cette visite était tellement significative que Lorrain se hâta de s'habiller. « Vous m'arrêtez, dit-il. « Oui, citoyen Lorrain. « Pourquoi cela ? « Parce que tu es suspect. « Ah, c'est juste. » Le commissaire griffonna quelques mots au bas du procès-verbal d'arrestation. « Où est ton ami ? « dit-il ensuite. « Quel ami ? « Le citoyen Maurice Lindet. « Chez lui, probablement, dit Lorrain. « Non pas, il loge ici. « Lui ? « Allons donc. « Mais cherchez, et si vous le trouvez... » « Voici la dénonciation, dit le commissaire, elle est explicite. » Il offrit à Lorrain un papier d'une hideuse écriture et d'une orthographe énigmatique. Il était dit dans cette dénonciation que l'on voyait sortir chaque matin de chez le citoyen Lorrain, le citoyen Lindet, suspect décrété d'arrestation. La dénonciation était signée Simon. « Ah ça, mais ce savetier perdra ses pratiques, dit Lorrain, s'il exerce ces 2 états à la fois. Quoi, mouchard et rossemeleur de bottes? C'est un César que ce monsieur Simon. » Et il éclata de rire. « Le citoyen Maurice, dit alors le commissaire, où est le citoyen Maurice? Nous te sommons de le livrer. » Quand je vous dis qu'il n'est pas ici. Le commissaire passa dans la chambre voisine, puis monta dans une petite soupente où logeait l'officier de Lorrain. Enfin, il ouvrit une chambre basse. Nulle trace de Maurice. Mais sur la table de la salle à manger, une lettre récemment écrite attira l'attention du commissaire. Elle était de Maurice, qu'il avait déposée en partant le matin sans réveiller son ami, bien qu'ils couchassent ensemble. Je vais au tribunal, disait Maurice, déjeune sans moi, je ne rentrerai que ce soir. Citoyen, dit Lorrain, quelque hâte que j'aie de vous obéir, vous comprenez que je ne puis vous suivre en chemise, permettez que mon officier m'habille. Aristocrate, dit une voix, il faut qu'on l'aide pour passer ses culottes. Oh, mon Dieu, oui, dit Lorrain, je suis comme le citoyen Dagobert, moi. Vous remarquerez que je n'ai pas dit roi. Allons, fais, dit le commissaire, mais dépêche-toi. L'officieux descendit de sa soupente et vint aider son maître à s'habiller. Le but de Lorrain n'était pas précisément d'avoir un valet de chambre, c'était que rien de ce qui se passait n'échappât à l'officieux, afin que l'officieux redît à Maurice ce qui s'était passé. Maintenant, messieurs, pardon, citoyens, maintenant, citoyens, je suis prêt, je vous suis, mais laissez-moi, je vous en prie, emporter le dernier volume des lettres à Émilie de Monsieur de Moustier qui vient de paraître et que je n'ai pas encore lu. Cela charmera les ennuis de ma captivité. Ta captivité, dit tout à coup Simon, devenu municipal à son tour et entrant suivi de quatre sectionnaires. Elle ne sera pas longue. Tu figures dans le procès de la femme qui a voulu faire évader l'Autrichienne. On la juge aujourd'hui. On te jugera demain quand tu auras témoigné. Cordonnier, dit Lorrain avec gravité, vous cousez vos semelles trop vite. Oui, mais quel joli coup de tranchée, répliqua Simon avec un hideux sourire. Ah, tu verras, mon beau grenadier. Lorrain haussa les épaules. Eh bien, partons-nous, dit-il, je vous attends. Et comme chacun se retournait pour descendre l'escalier, Lorrain lança au municipal Simon un si vigoureux coup de pied qu'il le fit rouler en hurlant tout le long du degré luisant et roide. Les sectionnaires ne purent s'empêcher de rire. Lorrain mit ses mains dans ses poches. Dans l'exercice de mes fonctions, dit Simon, livide de colère. Parbleu, répondit Lorrain, est-ce que nous n'y sommes pas tous dans l'exercice de nos fonctions? On le fit monter en fiacre et le commissaire le mena au palais de justice.